un bâtiment très important par la taille et important aussi par la valeur économique, parce que nous sommes à côté d'Istanbul, sur ces îles des Princes. C'est un bâtiment du début du XXe siècle, en bois. On dit que c'est le plus grand bâtiment en bois de l'Europe, et qui faisait l'objet d'un procès depuis les années 60, de manière complètement arbitraire, lorsque le patriarcat avait été dépossédé de cette propriété, donnée par un legs, donc d'une riche famille grecque locale. Et effectivement, le procès a été abandonné et restitué donc légalement au patriarcat. Donc c'est un signe positif, mais il faut bien voir que c'est finalement, à mon avis, un geste important, mais qui ne modifie pas fondamentalement le rapport de force, en ce sens que ce sont des dizaines et des dizaines de cas semblables, voire des centaines, c'est-à-dire de propriétés, de legs, d'immeubles qui ont été spoliés et qui continuent malheureusement à l'être. Donc je crois qu'il faut faire très attention, c'est un bon signe, mais maintenant il faut aller vraiment dans le détail et aller jusqu'au fond de chaque dossier.
Alors justement, la question des expropriations est un point de litige récurrent entre l'État et les minorités grecques et arméniennes en Turquie. Or, peut-on s'attendre à ce que les choses évoluent encore dans le bon sens ?
On peut l'espérer, parce que maintenant je crois que le gouvernement n'a plus vraiment le choix. Alors le problème, c'est de savoir qui gouverne et qui décide. Hein. On est dans un pays où il y a plusieurs strates de pouvoir, de décision en fait. Et très souvent, on se rend compte que des petites affaires n'ont pas véritablement de fondement politique au niveau national, sinon l'acharnement local de quelques fonctionnaires politisés. Il faut tout simplement que la Turquie prenne ses responsabilités, décide une bonne fois pour toutes d'en finir avec ces pratiques obscures d'un passé de plus en plus révolu, et qu'elle décide effectivement de faire comme Atatürk l'avait fait d'ailleurs en 1937, quand il y avait eu une loi qui sanctuarisait les biens des minorités. Il faut refaire un grand tour d'ensemble et voir effectivement le cas par cas, chaque affaire, et qu'on en finisse avec ces rapines qui correspondent à une autre époque. Je voudrais juste préciser qu'il y a les communautés grecques, il y a les communautés arméniennes, il y a les communautés syriaques qui ont certains problèmes, notamment dans l'est de la Turquie avec un monastère important, le monastère de Mar Gabriel, et les biens des communautés latines, c'est-à-dire les héritiers de toutes ces communautés, ces associations, ces confréries religieuses du 19e siècle qui possèdent encore des hôpitaux, qui possèdent encore des écoles et qui font fonctionner une partie importante de l'économie. Ne les oublions pas non plus.
Alors, d'un côté, les chrétiens sont soumis à des expropriations, à des interdictions parfois. Est-ce qu'on peut parler de comportement ambigu de l'État vis-à-vis des chrétiens ?
Le comportement est forcément ambigu dans ce sens qu'il n'y a pas véritablement de reconnaissance d'appartenance à la nation turque. C'est toute l'ambiguïté finalement à l'origine peut-être même de ces problèmes, c'est-à-dire qu'on les considère hélas encore comme des étrangers. Le problème, c'est être de Turquie ou être turc, c'est-à-dire appartenir à une ethnie turque. C'est le problème de la nationalité, c'est un problème fondateur à mon avis de la République turque qui n'est pas irrésoluble mais qui pose de plus en plus de problèmes. Et les premiers à dénoncer cette situation, ce sont les démocrates de Turquie, ce sont des penseurs, ce sont des journalistes, des intellectuels qui sont à l'avant-garde de cette lutte. Alors ça passera par une réforme de la Constitution, ça passera par des changements profonds liés ou pas à une éventuelle négociation avec l'Union européenne. Mais ce sont des problèmes importants dont beaucoup de gens ont conscience ici. Hein. Attention, ce n'est pas simplement les chrétiens de leur côté qui se battent pour leurs droits. Ils ne sont pas seuls, il y a beaucoup de gens qui sont avec eux, beaucoup de Turcs aussi. La mentalité est en train d'être renversée depuis quelques années. Et il faut reconnaître à l'AKP d'avoir ouvert certaines portes. Alors est-ce que c'est pour aller jusqu'au bout ? Est-ce que c'est pour faire une politique d'affichage par rapport à l'Union européenne ? Je suis partagé sur ce point-là comme beaucoup d'autres personnes. C'est positif, mais il faut surveiller ce qui va se passer maintenant.
Concerne l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, ce n'est pas vraiment bien engagé. Mais la question demeure, est-ce que la Turquie se réforme pour elle-même ou pour une potentielle future entrée dans l'Union européenne ?
Il n'y a pas beaucoup de chapitres qui ont avancé en 2010, ça je vous l'accorde. Néanmoins, c'est toujours la politique officielle. Néanmoins, il faut voir quel est l'intérêt de la Turquie. Et moi, je crois qu'elle se réforme pour elle-même. Toute influence trop voyante de l'extérieur serait très mal interprétée par rapport à l'opinion publique ici, qui reste très farouchement indépendantiste, voire nationaliste. Donc la question est de savoir maintenant, est-ce que la classe politique turque va trouver les propres éléments politiques dans ses références historiques, dans ses références de doctrine, d'avoir les moyens effectivement d'accepter toutes ces minorités chrétiennes et non chrétiennes. On parle aussi des Kurdes, on parle aussi des Alévis, qui sont des minorités autrement plus importantes. dans un projet pour une nouvelle Turquie, une Turquie plus démocratique et surtout une Turquie qui respecte les droits élémentaires comme le droit de la propriété, ce qui n'est pas le cas pour le moment.
Le parti islamo-conservateur, on l'a vu, donc l'AKP, fait quelques ouvertures, disons, vis-à-vis des chrétiens. Comment cela est-il perçu par les pro-laïcs turcs, on le rappelle, qui comprennent les forces armées et les nationalistes?
C'est véritablement là, à mon avis, le fond du problème, parce que n'oublions pas que cet acharnement sur les minorités chrétiennes vient avant tout de ces milieux-là. Des milieux qui étaient absolument incapables de s'auto-réformer jusqu'à quelques années, des milieux qui s'étaient arc-boutés sur une vision absolument ethnocentrée de la définition de la nation turque, donc alliant nationalisme, alliant aussi une forme d'islamisme radical qui a été repris ensuite et transformé, mâché par la KP. C'est pas un parti unique, hein, c'est un parti avec plusieurs tendances à l'intérieur, avec des gens plus ouverts et des gens beaucoup plus fermés aussi. Mais par rapport à cet héritage, disons, kémaliste, laïque, on peut penser qu'ils sont en train d'évoluer sur la question. Mais la grande réussite, à mon avis, viendra quand eux-mêmes arriveront à s'exprimer complètement librement par rapport à ces sujets-là, et surtout par rapport aux chrétiens. On parle de combien de personnes? On parle de moins de 100 000 personnes, 60 000 Arméniens, quelques milliers de Grecs, une quinzaine de milliers de Syriaques. C'est pas grand-chose. Surtout, ce sont des communautés qui participent culturellement, qui participent aussi au décor. Pour la messe de l'Épiphanie, il y avait toutes les télévisions turques qui étaient là, c'est passé aux journaux, la célèbre jet de croix dans les eaux de la Corne d'Or, où des jeunes gens plongent dans l'eau glacée pour aller chercher la croix. Bon, bah, c'est des choses qui plaisent, donc c'est quelque chose qui va bien dans le décor. Bon, faites un petit effort, c'est pas bien compliqué, et surtout respectez les droits de chacun et tout ira mieux.
Comment cette ouverture du gouvernement de l'AKP est perçue par les pro-laïcs turcs? Est-ce qu'il y a une inquiétude de leur côté?
Bon, les fronts sont très opposés, hein. D'un côté, c'est une évolution qui évolue par un parti élu majoritairement, hein. Ils ont des scores faramineux. Et de l'autre côté, ce sont des partis beaucoup plus affaiblis et qui pensent que l'AKP a un agenda islamiste caché. Et il y a des éléments pour le croire aussi, attention, hein. Personne n'est blanc dans cette affaire. Simplement, il y a une évolution qui fait que certainement les gens arrivent à mieux parler maintenant, à mieux communiquer. Et surtout, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'évolution de la société civile qui s'ouvre. Vous avez des publications très importantes sur les minorités. C'est un objet d'intérêt tant touristique que culturel. Et cette société civile est en train de bouger. Et surtout, les jeunes n'en peuvent plus de ces mensonges du passé. C'est-à-dire qu'ils veulent véritablement savoir ce qui s'est passé en termes d'histoire, en termes de mosaïque. La Turquie est une mosaïque formidable. Et je crois que tous ces inconvénients, en tout cas tout ce qui est perçu comme un inconvénient maintenant par les conservateurs turcs, est finalement, à mon avis, une source de richesse et de promesse pour l'avenir.